Michel Bouquet interprète le rôle de Dante, Jean Topart celui de Virgile, Louise Comte, sociétaire de la Comédie-Française, Béatrice, avec Catherine Sellers, Louis Arbessier, Roger Carl, Marcel André, Jean-Roger Cossimon, Patrice Galbeau, Julien Guillaumard, Jean Mauvais, Jacques Degore, Jean-Pierre Lituac, Jean Brassat, Maurice Nasil, Pierre Decazes, Yves Pénaud, Jacques Lalande. Les thèmes musicaux illustrant la comédie ont été retrouvés et orchestrés par Charles Ravier. Marielle Nordman, harpiste, Pierre Poulteau, Huguette Hermann, Michel Sanvoisin, flûte à bec, Roland Mancini, cor anglais, Guy Robert, luth, les ont interprétés sous la direction de Charles Ravier. La traduction de la comédie est d'André Pézard, Bibliothèque de la Pléiade.
Un mot avant de commencer la première lecture de la comédie qui, soit dit une fois pour toutes, ne s'est jamais appelée divine, sinon dans la bouche d'admirateurs niais. Un mot donc sur le vocabulaire de la traduction d'André Pézard. Écrite dans le décasyllabe de la chanson de Roland, mais sans rime, cette traduction recourt à un certain nombre de termes français archaïques. Pour la plupart, ils sont encore connus et ne présenteront aucune difficulté. Quelques-uns peuvent surprendre un instant, mais on s'y habituera très vite. Ce sont « acquaser » pour « apaiser »,« occoison » pour « occasion »,« guerdon » pour « récompense ». Parmi les particules, « va » pour « déjà »,« lèse » pour « vers ». »,« léant » s'oppose à « séant ». La seule difficulté réelle peut tenir à la particule « ins » qui ne doit jamais être confondue avec « ainsi ».« Ins » signifie tantôt « mais », il ne pleurait point, ins accueillait chantant, et tantôt avant, il faut que mon devoir j'acquitte, ins de partir. Signalons enfin qu'André Pézard a traduit systématiquement les noms propres. Nous ne nous sommes permis pour l'écoute qu'un tout petit nombre de modifications avec l'autorisation de l'auteur. Le premier chant de la comédie diffère de tous les autres par un ton allégorique qui ne reparaîtra plus. C'est la semaine sainte de 1300, année jubilaire. Dante est au milieu de sa vie, il a 35 ans. Il s'est perdu dans une forêt, le péché, le sommeil de l'âme. Une montagne, un puits, ensoleillé, se découvre par où sortir de ce sombre vallon. Mes amis côtes, le chemin est barré à Dante successivement par une lance, c'est-à-dire un léopard, image de la luxure, puis un lion, l'orgueil, puis une louve, l'avarice. Dante est contraint de redescendre, et soudain, il rencontre une ombre, le poète de Mantoue, Virgile. Tel est le prologue de la comédie.
Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais par une selve obscure, et vis perdue la droiturière voie. Ah, comme à la décrire est dure chose cette forêt sauvage et âpre et forte, amère étant que mort n'est guère plus. Comme y entrer, ce ne sais-je redire, tant j'étais plein de sommeil en cette heure où je mis abandon le vrai chemin. Mais quand je fus au pied d'un puits venu, où se bornait enfin cette vallée qui m'avait pénétré le cœur d'angoisse, pour lors fut apaisé un peu l'effroi. Et comme s'il qui sortit de la mer reprend pied haletant sur le rivage tourné vers l'eau périlleuse et la guette, ainsi mon âme, encore jetée en fuite, se revira, guettant le mauvais pas qui jamais ne laissa personne vive. Et voilà presque à l'assise du tertre sourdre une lonce, outre vive et légère, son poil était couvert de brunes marques. Elle ne se partait d'en face, moi, un s'empêchait très aigrement ma route. Bien vrai que m'octroyait bonne espérance de cette bête au riolant pelage le temps du jour et la douce saison, mais n'eurent-elles pouvoir contre l'effroi qui me saisit d'un lion paraissant. Il me semblait qu'il vint de roide vers moi, plein de rageuse faim, la tête haute, puis une louve qui, dans sa maigreur, semblait chargée de toute convoitise, après me mit en tel point de détresse que je perdis l'espoir de la hauteur. Tandis qu'au plus bas lieu j'allais tombant, fut à mes yeux une figure offerte qui semblait enrouée par long silence. Quand je la vis parmi le grand désert, si lui crier « Miserere de moi, qui que tu sois, ombre ou homme certain !»«
Homme ne suis, mais fus homme jadis. J'étais parmi les ombres en suspens, quand m'appela sainte et belle une dame. De ses commandements donc la prière. Luisants furent ses yeux plus que l'étoile. Elle se prit souèvement à dire, à voix angélielle en son parler.
Âme courtoise, ô douceur m'antoine, dont le renom dure encore sur la terre et durera pour longtemps qu'elle roule. Le mien ami, ami nom de fortune, en son chemin sur la déserte plage est si fort empêché que peur le chasse. Je crains qu'il ne soit déjà si esmari qu'à son secours je me sois tard levé, selon ce que j'ai su de lui au ciel. Porte vers lui ta parole à orner. De tout soin besognable à son salut, aide le temps que j'en sois consolée. Je suis Biétrice qui dit aller te presse. Je viens du lieu où rentrer je désire. Amour, par qui je parle ainsi, m'amuse.
Après qu'elle eut cette raison finie, ses yeux luisants de pleurs, elle détourne, par quoi elle me fait plus prompt à court. Et me voici, comme fut son vouloir.
Virgile, ainsi mandé par Béatrice, va guider Dante à travers les trois lieux éternels, enfer, purgatoire, paradis.
Je juge donc pour ton bien. Je loue que tu me suives, et je serai ton guide, te hors-jetant d'ici par lieux éternes où s'entendent les cris du désespoir, où se voient les dolents esprits antiques dont chacun hurle à la seconde mort. Puis tu verras ceux-là qui sont contents de dans le feu, espérant tôt ou tard venir parmi les âmes bienheureuses. Jusque où, si tu veux monter ensuite, une âme y veillera, plus que moi digne. À elle, en mon partir, te laisserai.
Et moi à lui, poète, par ce Dieu que tu ne connus point, je te requiers, pour que ce mal je fuis et autre pire, que tu me mènes là où tu as dit, si que je vois le porche de Saint-Pierre et ce premier que tu fais si dolent. L'or se mue-t-il et moi le pas tenant.
De l'enfer, qui est lui aussi œuvre de l'amour divin.
Par moi va-t-on dans la cité dolente, par moi va-t-on dans l'éterne douleur, par moi va-t-on et mille agents perdus. Justice mue mon souverain auteur. Ouvrage suit de divine puissance et très haute sagesse et prime amour. Nulle chose avant moi ne fut créée sinon éterne, et je dure éternel. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Ces mots empreints d'une couleur obscure furent écrits au sommet d'une porte.
L'anté-enfer est habité par les tièdes qui n'ont su choisir ni bien ni mal.
Là, durs soupirs, plaintes et cris aigus résonnaient par la nuit veuve d'étoiles. De quoi me prie maintenant à pleurer? Langues étranges et horribles jargons, paroles de douleur, accents de rage, voix haut montées et floues, et mains sonnantes faisaient ensemble un tumulte qui roule sans fin par l'air merveilleusement sombre. Comme sablon lorsque les vents tournoient.
C'est,
me dit-il,
la misérable guise que tiennent ceux à tas dont le cœur morne, vécu sans infamie et sans louange. Le ciel, pour n'être pas moins beau, les chasse, et le profond enfer ne les reçoit. Ne devisons point d'eux, regarde et passe.
Le spectacle de l'enfer se découvre. Un entonnoir souterrain, système de cercles concentriques de plus en plus étroits au fur et à mesure qu'on descend. Nuit et nuages. La vallée est dite ennublée.
De vrai, je me trouvais dessus le bord de la vallée d'abîme douloureuse où sans fin gronde un orage de plainte. Creuse et obscure était, si ennublée que j'avais beau ficher au fond ma vue, je n'y pouvais distinguer nulle chose.
Or, nous faut descendre au monde aveugle. J'irai premier et tu seras second.
Le premier cercle, les limbes. C'est moins l'enfer qu'une sorte de paradis sans la grâce, où sont les âmes des justes, nées avant le Christ ou loin du Christ. C'est là que séjourne habituellement Virgile, avec les poètes antiques guidés par Homère, avec les philosophes guidés par Aristote, païens mais aussi musulmans.
Ici, autant comme on put écouter plainte Nia, fort que de lents soupirs lesquels faisaient l'air éterne trembler. Ceci advient pour un deuil sans martyr qu'au fond de l'âme on s'effoule très grand.
Or saura, sans aller plus loin guère, qu'ils n'ont péché. Et s'ils ont leur mérite, ce n'est assez, car ils n'eurent baptême. lequel est clé de la foi où tu crois. S'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adorèrent Dieu bel et dûment, et je suis un de ces bannis moi-même. Pour tel défaut, non point pour autre blâme, somme perdue, de ce seul trait blessé que sans espoir vivons en désirance.
Mais, attends, une voix se fait ouïr.
Rends des honneurs au très digne poète, son ombre est de retour, qui nous manquait.
Puis, quand la voix tomba et s'éteignit, je vis venir quatre grandes figures. Leur semblance n'était triste ni gaie. Et le bon maître alors reprit.
Admire celui qui tient dans la main cette épée. Il va devant les trois comme leur sire. C'est lui le souverain poète, Homère. Vient après lui Horace, satirique. Ensuite Ovide, et pour finir Luc.
Nous parvînmes au pied d'une ferté, noble châtel et cette fois saint de mur, que garde entour une belle rivière. Nous la passons comme on fait terre dure, par cette porte j'entrai avec ses sages. Là fut un pré de tant fraîche verdure. Jean y avait, aux regards lents et graves, de grande autorité en leur semblant, rare leur dit et à voix de douceur. Nous retirant dans un coin de la prée, en lieu haut et ouvert, et clairvoyant, la noble cour se pouvait voir très toute. Je vis Électre avec main compagnon, entre qui je connus Hector, aîné, et César fervêtu, aux yeux de griffe. Je vis Brutus qui déchassa Tarquin, Mars, Julie et Lucrèce et Cornille, et scellait à l'écart le Saladin. Puis relevant un petit le sourcil, je vis le maître à tout homme sachant, assis parmi la gent philosophique. Tous lui rendent honneur, tous le remirent. Ici vis-je Socrate avec Platon, plus près de lui par devant tous les autres. Euclide, Géomètre et Ptolémée, Hippocrate, Avicenne et Galien, Averroès qui fit le commentaire.
Dante et Virgile sont descendus au deuxième cercle. Cette fois-ci, c'est bien l'enfer. Ici, sont châtiés les luxurieux.
Un lieu muet de toute clarté s'ouvre, qui mugit comme fait mer en tempête, si de contraire vent elle est battue. La tourmente d'enfer qui oncle la trêve prend dans sa rage et emporte les morts et les roule. Et les heurtes, et les harcèles. Lors, j'entendis qu'à six fêtes géhenne sont condamnés les pêcheurs de la chair qui font raison céder aux appétits. Et tels les passereaux que les frimas chassent en vol épais, battant des ailes, ce souffle arrache un tas d'esprits mauvais, et ça et là, et haut et bas les rues. Onc ne les vient conforter nul espoir d'un peu de cesse ou de peine moins âpre.
Parmi ces âmes entraînées par le vent, Dante en remarque deux qui, jusque dans la tourmente, restent ensemble. Il les interroge. Ce sont Francesca de Rimini et son beau-frère Paolo. La beauté de Francesca séduisit Paolo. L'amour de Paolo séduisit Francesca. Ils savouèrent leur passion tandis qu'ils lisaient ensemble un roman d'amour courtois. Dans le roman, le personnage de Galeo poussait Lancelot à embrasser Guenièvre. C'est le roman même qui poussa Paolo à embrasser Francesca.
Sur la marine où descend et s'apaise le pot, suivi d'un large train de fleuve, est assise la ville où je fus née. Amour qui tôt s'enflamme en gentil cœur et pris s'estuit des beautés qui me furent arrachées, et sa force encore me plaise. Amour qui onque à l'aimer ne fait grâce d'aimer aussi, aux plaisances de lui me prie si fort qu'encore n'en suis quitte. Amour nous conduisit à même mort.
Ce dit la voix qui pour les deux parlait. Mais dis, en la saison des doux soupirs, à quel signe et comment permis, amour, que connussiez vos incertains désirs?
Ensemble un jour, nous lisions par plaisance de Lancelot comme amour l'étreignit. Seuls étions, et sans soupçon de nous. À plusieurs coups nous fit lever les yeux cette lecture, et pâlir le visage. Mais seul un point fut ce qui nous vainquit. Quand la riante lèvre et désirée vîme baiser par un si preux amant, s'estuit, dont il n'est sort qui me délie, la bouche me baisa, tremblant d'angoisse. Galeot fut le livre et son trouvert. Et ce jour-là ne l'hume plus avant.
Troisième cercle, les gourmands. Parmi ceux-ci, Tiacco, c'est-à-dire le pourceau, un Florentin. Ce qui compte ici n'est pas sa gourmandise, mais sa patrie. Dante l'interroge sur Florence, la cité partie, c'est-à-dire partagée. Tiacco prédit la lutte entre guelfes blancs et noirs, dont Dante sera victime. Les blancs, les sauvages parce que les ruraux, chasseront un instant les noirs, mais ceux-ci reviendront avant 3 ans, avec l'aide de quelqu'un qui à présent louvoie, Boniface VIII, et se montreront longtemps implacables. Il ne reste à Florence que 2 justes, Dante est sans doute l'un d'entre eux, et la ville est en proie aux passions.
Nous trépassions les ombres accablées sous la pesante pluie, foulant aux pieds leur vaineté à semblant de personnes. Elle gisait sur la terre très toute, fort une qui se mit sur son séant, quand devant soi elle nous vit passer.
Toi, qui par cet enfer vas entraîner, reconnais-moi si tu sais,
me dit-elle.
Ja fus-tu fait, ainsi que mort me défie.
Et lui à moi.
Ta cité qui est pleine d'envie au point que j'accrève le sac fut mon séjour en la sereine vie. Vous, les bourgeois, vous me nommiez pour celle, coulpe de gueule et celle qui me crève, comme tu vois, à rouir sous l'ondée.
Mais dis, si tu le sais, à quoi viendront les citéens de la cité partie, si aucun juste y est, et la raison pourquoi lui donne assaut telle discorde? Et il reprit.
Après longues querelles viendront au sang, et le parti sauvage chassera l'autre avec mainte offensaille. Puis il faudra que l'une gent trébuche dans 3 soleils, et que l'autre surmonte par la force d'un tel qui hors louvoie. Longtemps tiendra celle-ci le front haut, faisant son joug peser sur la vaincue, pour colère et pour deuil que l'on en prenne. Si 2 justes y sont, qui les écoute? Superbe, envie et avarice règnent, ces 3 brandons qui au cœur boutent feu.
Là, il gauchit ses droits yeux en clin corne, me guigne un brin, et puis baisse le chef et tombe au ray de ses autres aveugles.
Dante et Virgile ont franchi le quatrième cercle, celui des avares et des prodigues. Voici le cinquième, celui des coléreux, plongés dans le marais du Styx et se dévorant les uns les autres. Pêcheurs de n'avoir su offrir au soleil de la terre que leur aigreur. L'un d'entre eux essaiera même de faire tomber Dante de sa barque.
Dans la palue qu'on nomme Styx, il va, le triste rue, tombant jusque aux pieds de la maligne côte à face grise. Et moi, qui n'entendais qu'à remirer, je vis dans ce marais boueuses gens, nus, au semblant aigre et offensé. Tous entre eux se frappaient, non des mains seules, mais des pieds, de la tête et du poitrail, se tranchant par lambeaux à belles dents.
Par-dessous l'onde, y a gens qui soupirent, lesquels font pulluler cette onde, et sourdre, comme devine l'œil où qu'il se tourne. Pris dans la bourbe, il dit, nous fûmes tristes, dans l'air soif qui du soleil s'allègre, portant au cœur chagrineuse fumée. Or, menons deuil en cette vase obscure. Dedans leur gorge, ils gargouillent ces gloses.
Après ces quatre cercles où sont punies quatre formes d'incontinence, Virgile et Dante rencontrent un soudain obstacle. Une muraille fortifiée ferme les cercles inférieurs de l'enfer comme une ville forte, la ville de Dité ou Dis, c'est-à-dire Lucifer. Il y a là comme une deuxième porte à franchir et dont on veut refuser à Dante le passage.
Cette hautaine tour, bien avant d'être assez faussé, dis-je en suivant mon compte, nos yeux troublés volèrent à sa cime pour avoir vu deux flammes s'y bouter et une autre aussitôt rendre signal tant loin que l'œil la peut choisir à peine. Le bon maître me dit,
Ormès approche la ville, fils, qui de Dis a pris nom. Et sa grande hoste et son peuple peineux.
Au fond de la vallée, déjà sans faute, j'aperçois ces mosquées, dis-je, vermeilles, comme au sortir d'une chaude fournaise.
C'est le feu éternel dont elles brûlent par le dedans qui les montre rougies,
dit-il.
Et tu vas voir le bas enfer.
Sur les portes, grouillaient bien plus de 1000. Tombés du ciel en pluie. Tous, à grand hargne, disaient
« Qui est cestui qui, n'ayant mort, s'en va par les contrées de la gens morte ?»
Mon sage maître, aux rebelles, fit signe de leur vouloir parler secrètement. Ainsi s'en va, et cela m'abandonne. Le tendre père, et je reste en suspens, les noms, les oui, en ma tête querelle. Ouïr ne put ce qu'il dit aux démons, mais près d'eux, il n'eût fait longue demeure qu'entre les murs, tous à l'envi rentrèrent. Ces aversiers, ils serrèrent les portes au front de mon seigneur, qui resta hors. Puis d'un pas rare, il revint, l'œil à terre, le sourcil, ras de toute hardiesse, et entre ses soupirs allait, disant
« Qui m'a nié les dolentes demeures ?»
Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 septembre 1965. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur franceculture.fr.